Passion sur CFM Radio. Bienvenue à toutes et à tous. Donc, c'est Olivier, comme d'hab, président de l'association Salta 12, donc solution adaptée et locale pour la transition vers l'autonomie. On est en Aveyron, à côté de Decazeville. Et donc, on vous informe, on vous forme et on vous accompagne pour votre transition énergétique et alimentaire. Et aussi sur vos transitions relationnelles, c'est-à-dire que tout ce qui est gouvernance partagée, communication bienveillante, gestion de conflits, eh bien ça, c'est vraiment une base importante aussi dans la permaculture, puisqu'il y a prendre soin de l'environnement, prendre soin de l'humain, et créer du surplus et le redistribuer équitablement. C'est les éthiques de la perma. Et souvent les gens croient que ça ne touche que le jardinage, et ben non. Aujourd'hui, donc une interview portrait, une émission portrait sur un permaculteur, Mathieu Foudral. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Donc tu as créé le blog Prise de Terre en 2011 pour finalement t'installer aux Escuroux, donc à côté de Morse, dans le Cantal. Mmh. Mathieu, tu es donc à la base pépiniériste et tu as fait plein d'autres choses. Je te laisse un petit peu te présenter puisque du coup tu es permaculteur, formateur et rentre un petit peu plus dans le détail pour les auditeurs.
Ok, donc moi je suis un enfant du pays. Une partie de ma famille est originaire donc de cette région, là, quasiment à côté. J'ai commencé par les études agricoles. Donc ensuite j'ai entamé sur les études en gestion forestière parce que je suis un passionné des arbres depuis tout gamin. Je suis bien qu'en forêt, je suis bien qu'avec les arbres, etc. Donc j'ai pas, à l'issue de mon BTS, j'ai pas fini en forêt parce que j'avais pas envie de me retrouver à diriger des équipes de bûcherons. Me suis rendu compte que j'aimais plus la forêt pour ce qu'elle donnait, pour ce qu'elle était, que plutôt que pour ce qu'elle donnait en termes de mètres cubes, etc. Donc gestion, oui, exploitation, voilà, c'était vraiment pas mon truc et j'avais pas du tout envie de me retrouver à faire ça. Donc j'ai embrayé sur autre chose, puisque moi ça a toujours été ma passion de faire pousser des plantes, donc j'ai continué par un BTS production horticole, pépiniériste donc en gros. Là je me suis régalé, j'ai appris des choses très intéressantes, j'ai appris des choses catastrophiques aussi, donc à tout ce qui était les engrais, les pesticides, les insecticides, les trucs, j'ai appris toute la théorie. Donc tip top. Et ensuite, donc, mon premier boulot, ça a été d'appliquer cette théorie. Donc j'ai passé les produits pas possibles partout. J'ai fait ce qu'il y a à peu près de pire, ce qu'on peut faire à peu près de pire en termes d'agronomie. Hein, vraiment, c'était assez terrible. Mais bon, c'était quand même super formateur. Parce que connais ton ennemi. Donc je connais bien mon ennemi. Je l'ai même expérimenté plusieurs fois. Donc voilà, et ensuite j'ai travaillé en tant que... J'ai fait un petit peu de formation d'animation nature, on va dire. Et puis donc j'ai bossé en paysage, en espace vert. Voilà, okay. Et puis là depuis donc 2011-2012, je me consacre, on va dire principalement, à la formation autour de thématiques que sont... la permaculture, l'agroécologie, l'agroforesterie, voilà. J'ai une vision peut-être un peu plus agricole que pas mal d'autres permaculteurs, je pense.
Et comment tu as découvert la permaculture? Ça s'est imposé à toi? T'en as entendu parler? Ça t'a titillé ta curiosité? Comment t'y es arrivé?
Vers 2010-2011, oui, il y a quelqu'un qui m'a dit « ça c'est de la permaculture, c'est une butte avec de la paille ». J'ai fait « ah ouais, ah bon, ça, ok, bon, butte avec de la paille, je trouvais ça rigolo le principe, mais je ne comprenais pas trop ». Donc je me suis renseigné sur internet, puisqu'à l'époque il n'y avait quasiment rien, il n'y avait pas de bouquin, en tout cas encore moins en français. Et en fait ça m'a parlé tout de suite. Tout de suite, parce que j'étais vraiment dans une période de gros questionnement personnel sur ma place, la place de l'homme dans l'environnement, le rôle de l'homme. Est-ce qu'il n'a qu'un rôle délétère, j'ai envie de dire. Enfin, je vivais assez mal, je commençais à me poser des questions aussi sur le futur, le pic pétrolier, etc., etc., vers où on allait, et c'est vrai que je me posais beaucoup, beaucoup de questions. Et la permaculture m'a permis de faire le lien entre mes questionnements et surtout retrouver l'espoir. Okay. Puisque j'ai compris que ce que l'homme avait défait, il pouvait le refaire et qu'il pouvait même le refaire presque aussi bien, en tout cas plus rapidement que Mère Nature. Donc ça m'a vraiment botté. Et depuis, j'ai rien lâché. Je suis toujours aussi motivé par ça. Et j'ai voulu expérimenter parce qu'on était donc début des années 2010 et il n'y avait rien, quoi. Il n'y avait quasiment pas de bouquins, il n'y avait pas d'exemple vraiment, il fallait croire tout le monde parlait un peu comme un livre, et moi j'ai voulu expérimenter, donc c'est pour ça que j'étais en Haute-Savoie à l'époque, j'ai quitté l'endroit où j'étais, j'ai quitté mon boulot, et je me suis installé ici pour expérimenter. Donc agroforesterie, permaculture en tant que telle, au niveau de la conception, puis après plein de techniques de maraîchage, sol vivant, voilà.
Donc aux Escuroux, c'est quoi ton objectif?
Alors il y en a plusieurs, le premier, c'était déjà d'expérimenter. Je suis arrivé ici, je ne savais pas planter un clou. Je ne savais pas faire grand-chose, à part couper de l'herbe. Voilà, j'avais plein
et
de
faire
choses.
Pousser des plantes.
Et faire pousser des plantes, oui, tout à fait. Mais concrètement, en termes de bricolage et d'autonomie, voilà, j'étais pas très fortiche. Donc l'idée, c'était vraiment d'expérimenter. Donc j'ai expérimenté d'abord l'éco-construction. Pas de l'éco-construction, mais... de la rénovation, l'éco-rénovation, on va dire. J'ai quand même beaucoup, beaucoup bossé sur le bâti. Et puis, j'ai expérimenté plein, plein, plein de choses sur la permaculture, des techniques différentes, des stratégies, des espèces, des associations, voilà, donc j'ai essayé du sylvopastoralisme, j'ai essayé donc des systèmes de rétention d'eau, d'irrigation gravitaire, de paillage, etc., etc. Donc j'ai beaucoup, beaucoup testé, c'était l'objectif principal. Ensuite, l'objectif secondaire, c'est évidemment de me rapprocher de l'autonomie, même si cette question, en fait, est devenue en fait assez secondaire au fur et à mesure du temps, parce que je me suis rendu compte que, bah, déjà, l'autonomie, on n'y arrive pas tout seul. Très rapidement, je m'en suis rendu compte. On n'y arrive pas tout seul, ou alors c'est une gageure, et tu fais plus que ça.
On vous le dit, on vous le répète. C'est bien que les gens que j'interview vous le disent. Mmh. On n'arrivera jamais à être autonome tout seul, et quand bien même on y passe toutes ses journées, on est esclave de soi-même. On ne profite pas de la vie et on n'est pas vraiment autonome.
Voilà. Donc voilà, ça c'était le deuxième objectif, on va dire. Et puis le troisième objectif, c'était de faire de ce lieu-là un lieu vitrine en permaculture pour y faire des formations.
Donc ce que j'ai fait. Vitrine et transmission.
Ouais.
Très bien. Au niveau, donc tu n'as pas un objectif d'autonomie alimentaire finalement là. Mais du coup, tu souviens à tes besoins, à quel pourcentage aujourd'hui tu penses, tu peux chiffrer ça à peu près en pourcentage?
C'est très difficile. Disons que si vraiment je voulais aller vers l'autonomie alimentaire, je pense que je pourrais subvenir à 80%, 85% de mes besoins alimentaires locaux.
Ouais.
Sauf que comme je disais, ça prend énormément de temps et en fait j'ai pas forcément envie de faire que des bocaux toute ma vie ou voilà. Du potager du matin au soir, donc je fais d'autres choses, voilà. Et là actuellement je suis à 30-40%, je pourrais tirer plus, mais en fait après c'est
tu sentirais d'un confort, d'un juste équilibre.
Ouais, c'est ça. Après c'est moi qui décide de pas le faire, quoi.
Alors, est-ce que c'est kiffant quand même de manger les produits du jardin, de sortir, de faire 20 ou 30 mètres et de revenir avec ce que tu as envie de manger?
Alors, c'est super kiffant de manger les fruits du jardin, mais c'est encore plus kiffant de bouffer les trucs qui poussent tout seuls et que tu n'as même pas planté. Ça, c'est jubilatoire, parce que ça t'a rien demandé et c'est super bon. Ça demande un petit peu de boulot de cueillette et de nettoyage et puis basta. Donc ça, c'est vraiment chouette. Ça, c'est appréciable. Et de plus en plus, en fait, je m'oriente vers une espèce d'agriculture de cueillette. Où je sélectionne les choses qui poussent, j'en installe certaines, ou je laisse pousser certaines, et je me débrouille un petit peu avec tout ça, et au final, on se rend compte que la nature est vraiment, vraiment généreuse, et pour qui sait la comprendre et s'en servir correctement, c'est super intéressant et vraiment riche.
Super, merci Mathieu. Donc vous êtes sur CFM Radio, on se quitte avec une petite pause musicale, et on se retrouve tout de suite après ça.
Injustifiés, loin d'être à plaindre, plutôt même privilégié. T'as pas faim, t'as pas froid, t'as tous tes papiers. Tu sais où dans mon sens, pas le souci de ce côté. Tu t'uses la santé, t'as tout mété tout le temps pressé. T'es hors retard partout et jamais concentré. En fait, tu perds ton temps à vouloir l'économiser. Du coup, tu perds ta vie en cherchant à la gagner. Tu perds ton temps à l'économiser. Tu perds ta vie en cherchant à la gagner. Tu oublies l'essentiel, trouver un sens à lui donner. Tu décides tout dans l'urgence sans jamais y penser.
Tu sais pas quoi faire,
alors viens nous aider.
On pourrait pas l'avenir en bleu ou au moins essayer. Qu'à sabbatique, mon ami, tu t'agites sans raison. Tu vas finir par y laisser des plumes. On se pose, au moins un thé, on remet tout en question. On arrivera peut-être à décrocher la lune.
de l'argent.
Ni à tuer ni à terre, mais accusé à bon escient.
Un bien plus précieux que tout l'or de la terre. Les aiguilles de l'horloge ne font jamais machine arrière.
Ça nous fait 100 minutes pour comparer nos opinions.
Analyse, groupe analyse, synthèse et prise de décision. Du lendemain, mais calme et détendu.
Si près des buts, ce serait dommage de lâcher plus une loupe sans coup de pas à grand renfort de Massagune.
Gardons-nous de cramer notre courage. Restons toujours de bonne foi dans la rage. Car la guérilla urbaine qui tourne au carnage,
on pourrait vite se retrouver. Acteurs malgré nous,
protagonistes et responsables dans une de ces pauvres images.
Il faut savoir s'oublier. Pas si facile de se faire tout petit quand on nous a appris à s'étaler. Savoir s'écouter pour mieux chercher et trouver les alternatives pour encore plus d'équité.
FM Radio, nous sommes donc aux Esquirous avec Mathieu Foudral de Prise de Terre, donc permaculteur, formateur en permaculture, pépiniériste, j'en passe et des meilleurs, puisque c'est un homme avec de nombreuses cordes à son arc. Donc juste avant, si vous avez raté le début de l'émission, on parlait un petit peu de comment Mathieu est venu à la permaculture, il nous a présenté un petit peu sa formation et son parcours, et du kiff qu'il avait à ramasser des choses qu'il n'a même pas plantées pour se nourrir avec. Le panard ultime de Mathieu. Et donc, je voudrais savoir, par rapport à les prochaines étapes pour toi sur ton lieu, c'est quoi ?
Les prochaines étapes.
Et peut-être une présentation du lieu, pardon, pour les auditeurs. Combien de ta superficie ? Qui te servent à quoi ?
Ok. Donc, la superficie de 1 hectare 7, à savoir que j'ai à peu près 1 hectare de bois. Voilà, en gros, pente plein sud, 520 mètres d'altitude moyenne, tout en pente, c'est pas compliqué, il n'y a pas de plat, donc c'est compliqué, mais c'est intéressant aussi. Voilà, donc on est dans le Cantal, mais on est relativement protégé du vent du nord, donc on va dire qu'on est plus près du climat du Lot ou de l'Aveyron que vraiment du Cantal, donc plutôt chaud en définitive. Enfin, même en définitive, même très chaud d'ailleurs.
Très chaud.
C'est même de pire en pire, c'est une catastrophe. Voilà, donc on a principalement des systèmes agroforestiers. Donc j'ai planté énormément sur les bordures, en intraparcellaire. J'ai essayé de faire un zonage très précis. Donc beaucoup, donc il y a des légumes, il y a des légumes vivaces, il y a du verger multi-étagé, il y a des arbustes à fruits comestibles, il y a un petit peu de tout, c'est vraiment riche. Et il y a aussi des prairies puisque j'ai un petit troupeau de brebis.
Et un poney je crois aussi.
Et un poney, oui, pour ma petite fille. Ouais.
Donc c'est un poney de loisir.
Un poney de loisir, tout à fait. Ouais.
Mais qui donne quand même sa contribution.
Ah, il donne une bonne grosse contribution pour la fumure du potager, ça c'est clair. Ouais.
Est-ce que tu t'en sers pour faire des briques de bouse? Je sais que ça se fait beaucoup avec la bouse de vache. Je ne sais pas si les excréments de poney ou de mouton, ça peut servir pour ça.
Aucune idée. Le poney, c'est fort possible parce que comme tous les équins, c'est très très fibreux, très 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 cellulosique. Donc il y a moyen peut-être de faire quelque chose avec... Moi, je le composte enfin, je le valorise en compost et j'en suis très, 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 très content. Ben, ça me permet d'avoir des légumes de dingue quand même, quoi. Donc, c'est chouette. Ça vaut le coup. Je préfère ça que faire des briques.
Ouais. Donc, pour les auditeurs, si jamais vous avez un excédent en bouse de vache, il faut savoir qu'une brique d'un kilo, un kilo de bouse de vache séchée, c'est 4000 unités de chaleur. Et une bûche d'un bois moyen, c'est d'un kilo, c'est 5000 unités. Donc, il n'y a rien à envier à part le volume, quoi. Le côté formation, du coup, comment t'as développé ça? Comment tu le vis au quotidien? Enfin, au quotidien, comment tu le vis quand tu formes? T'as quelqu'un qui a été toujours animé par l'envie de transmettre ou alors c'est une nécessité pour toi et du coup, tu te pousses un peu au cul
Non, je me pousse pas du tout au cul. J'ai toujours eu ça dans la peau. Déjà, quand j'étais au lycée agricole, j'aurais bien voulu être technicien agricole. Enfin, déjà, voilà, c'était quelque chose qui me parlait de renseigner les gens sur ce qui pouvait se faire. Parce que souvent, on a une vision, surtout quand on est un peu la tête dans le guidon, quand on est dans le milieu, on a souvent une vision assez étriquée des choses au final parce qu'on a la tête dans le guidon. Voilà. Et moi, mon objectif, c'est de faire voir aux gens qu'en fait, il y a plein de choses qui peuvent être faites. Et voilà. Et donc, c'était un attrait, une attirance personnelle, on va dire. C'est devenu, avec une compréhension plus globale du monde tel qu'il est, tel qu'il se profile, pour moi, ça devient maintenant presque, comment dire, une obligation morale, en fait, pour moi et pour les autres. Parce que je pense que la permaculture en particulier prône des valeurs et des choses qui sont vitales pour les temps à venir. Que ce soit pour le bien-être de l'homme ou de l'environnement en lui-même, et les deux sont liés de toute façon, et pour moi, ouais, c'est vraiment hyper important, voire même vital pour moi de faire passer des messages. C'est un petit peu ma part du colibri à moi, mais voilà.
Alors pour les auditeurs, il y a trois éthiques en permaculture, je le répète, hein, on ne répétera jamais assez, prendre soin de l'environnement, prendre soin de l'humain, et créer du surplus et le redistribuer à ses deux fins. Donc là, bah, Mathieu, il a clairement un surplus de connaissances, un surplus d'informations. Et donc la redistribution qu'il va faire, c'est de transmettre ces connaissances, de les rendre accessibles aux gens pour pouvoir pour que les gens puissent se les approprier et transmettre à leur tour. Alors du coup, là, récemment, tu as eu tu m'as installé des panneaux solaires, donc tu as augmenté ton autonomie énergétique, et tu as fait un captage sur une source un peu en hauteur. Donc au niveau de l'eau, tu avais certaines problématiques d'eau et d'électricité. Maintenant, c'est résolu, tu es tranquille, ou il reste des choses à améliorer à ce niveau-là?
Il reste toujours des trucs à améliorer. Au niveau de l'eau, on avait mon seul plan A, c'était l'eau de la source. On n'est pas raccordé au réseau. Et c'est super sur le principe, mais c'est très flippant l'été. Et j'en avais marre de serrer les fesses tous les étés en me disant si jamais un jour ça coule plus, on n'en a plus qu'à partir. Donc il fallait que je trouve un plan B. Donc ce plan B, je l'ai fait. J'ai installé une cuve de 4000 litres tout en haut. Ça tombe très bien, tout en haut du terrain. Donc comme j'ai 25% de pente à peu près partout, elle arrive vite en bas avec pas mal de pression. Donc ça, c'est chouette. Donc ça, c'est le plan B. J'ai un plan C qui est dans les tuyaux, hein, qui consisterait à récupérer en plus l'eau de pluie avec des cuves qui seraient donc dans la cave, à D'accord. l'intérieur, donc à l'abri de l'air, au frais, de la lumière, au frais, etc. Uh-huh. Voilà, ça c'est un plan B, mais un plan C, mais bon, disons que voilà, plan A, plan B pour l'eau, c'est pas mal.
Ensuite, on parle beaucoup de redondance hein, pour les auditeurs. Souvent on dit 1 égale 0, 2 égale 1, c'est-à-dire que si t'en as deux, qu'il y en a un qui tombe en rade, il t'en reste un. T'as le ruisseau aussi qui coule à côté, il s'assèche l'été
Alors ce ruisseau s'assèche pas l'été, effectivement le ruisseau c'est quelque chose dont je ne tire pas vraiment parti, alors qu'autrefois tout le système d'irrigation de la ferme était basé sur ce ruisseau. On a des canaux d'irrigation un petit peu partout, avec des bacs de rétention d'eau un petit peu partout sur la pente. Sauf que les temps changent et on n'a plus le droit d'utiliser cette eau-là maintenant.
Ah, c'est législatif, ça.
Voilà, voilà. Donc, bon, pour l'instant, je ne m'en sers pas, évidemment. Mais c'est, c'est effectivement une possibilité, d'autant que tout le système est conçu pour.
Très bien.
Voilà. Et puis après, bon, comme tu l'as dit, oui, donc, l'année dernière, donc, on s'est fourni en panneaux solaires, en parc de batterie, et donc maintenant, on est relativement autonome aussi au niveau électrique. Voilà. Et ça, c'était important pour nous aussi. À plein niveau.
Et les prochaines améliorations, les prochains projets de mise en place sur le terrain, qu'est-ce que c'est ?
Alors, bah, j'ai un projet de pépinière que je pensais mettre au point là, cette année, mais bon, vu que le printemps est arrivé en une semaine et demie, ça va me paraître compliqué cette année, donc bon, on va remettre ça l'année prochaine. En tout cas, j'ai préparé la place désormais, donc je pense que je vais me lancer dans une pépinière d'arbres, d'arbustes, de plantes vivaces, parce que comme je suis un gros déglingos au niveau de la botanique, j'ai de tout partout dans tous les sens, je suis un collectionneur complètement pathologique, et donc autant me servir de ça pour multiplier, pour pouvoir justement avoir un surplus et pouvoir le redistribuer autour de moi, parce que s'il y a des plantes qui sont vraiment, vraiment super intéressantes, c'est que je pense que tout le monde devrait en avoir, donc voilà, donc ça c'est la première partie, Et ensuite, c'est retravailler encore sur les bâtiments. J'ai un bâtiment que je voudrais... Donc là, il est hors d'eau, il est hors d'air, que je voudrais aménager pour pouvoir héberger des stagiaires de manière confortable. Quoi.
Voilà. Ok, super. Eh bien, merci Mathieu. Si tu as peut-être un mot de la fin pour les auditeurs, un conseil perma, un message à passer.
Planter des arbres.
Sauver un castor. Merci beaucoup Mathieu.
Salut.
À très bientôt. Et bien voilà, l'émission Collab Solutions touche à sa fin. Merci chers auditeurs et auditrices d'être restés avec nous jusqu'à maintenant. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur CFM Radio.